On a les maîtres qu'on mérite, parce que les maîtres sont les générations qu'ils méritent, tout ça c'est, dans tous les cas, solidaire, Haddadi, bon, c'est vertigineux comme Roland Joulet. Simplement signaler que mon objectif dans cette étude, c'est pas de dire cela en raison ou cela en tort, c'est de mettre en évidence que les maîtres du Talmud connaissaient l'éventualité, et c'est pourquoi ils avaient peur. Est-ce que c'est clair? Ceci dit, chacun a son option, bien entendu. Quel oui, d'abord Michel. Mais je voudrais quand même finir le texte, hein, ne me laissez pas partir avant. Quel oui. C'est que si l'on fait une analyse des motivations très complexes des structures de ce qui est gorem de la volonté, de ce qui mène un acte volontaire à se réaliser, alors il se dévoile des choses étonnantes. C'est-à-dire, est-ce que c'est à nous à mettre des conditions à Dieu sur le retour, hein? Et à la limite, on pourrait dire ça de mille manières. Je veux dire qu'il faut faire une différence entre le vœu pieux, pas dans le sens négatif, un vœu pieux, le vœu du désir de retourner, la volonté de retourner, c'est différent. Et l'inquiétude, la crainte de l'erreur, du blasphème, d'anticipation, et si jamais c'est pas le temps, on va faire échouer l'histoire juive. Donc on est bien dans une impasse, on est ligoté. Est-ce que c'est clair, Julien? Je comprends très bien ceux qui disent oui. Toutes les apparences sont peut-être qu'il fallait retourner déjà au siècle dernier, en tout cas maintenant urgent, mais peut-être que c'est pas le temps. Et peut-être que ce serait un échec beaucoup plus grave. Et peut-être qu'il faut préserver les chances de l'histoire juive dans la galoupe si jamais cette aventure du retour est anticipée et va échouer. Tout ça, je comprends. C'est pourquoi j'ai dit que c'est au-delà d'une discussion au niveau des connaissances. Il s'agit du choc de deux passions. Il faut diagnostiquer et analyser les passions comme telles. Les passions a priori, vous comprenez? Et c'est une question d'option. Alors, ce qu'on appelle, si vous voulez, grosso modo, parce qu'il y a mille nuances là et là, les sionistes religieux, ce sont ceux qui ont a priori ont une option positive du retour. Bon. Les autres ont l'option autre. Et alors, tout s'exprime et s'organise dans le plaidoyer ou dans l'exposition à partir de cette différence d'option. Je me trompe peut-être, c'est peut-être pas le diagnostic ou l'analyse réelle qui irait pour tous, mais enfin, il me semble que grosso modo, ça va chercher par là. Je vais vous dire comment, et j'en ai parlé encore cette fois-ci, comment il me semble qu'à un niveau sociologique immédiat, on pourrait le formuler. Vous savez, en Israël, indépendamment du problème de l'intégration à la vie israélienne des Juifs qui arrivent pour faire leur aliyah, pour devenir Israël, c'est un problème en soi, c'est pas simple. Il faut, l'objectif est difficile, c'est-à-dire s'hébraïser sans se déjudaïser. On est en plein maelstrom d'accouchement d'une identité qui a tous les avortements possibles, c'est évident. Mais indépendamment de ça, nous avons énormément de groupes qui viennent pour quelques semaines, pour soit par exemple les groupes des Upanekibut. Et en général, il y a énormément de non-juifs parmi eux. Officiellement, ils sont venus pour apprendre l'hébreu dans un kibbutz, parce que le kibbutz est fascinant et l'hébreu aussi. En réalité, ils ont une recherche d'identité très nuancée, très complète, chacune à son niveau. Et en tout cas, dans le secteur francophone, il arrive que souvent ce soit moi qui ai à leur parler. Et en général, quand on me pose cette question, alors j'essaie de l'expliquer de la manière suivante. Donc, eh bien, vous avez vu les introductions. Oui, il y a eu. Voilà, je crois que si on faisait un sondage en Israël et ensuite en France, ou en France ou ailleurs. Disons à Nathania. Bon, vous allez vous balader dans les rues de Nathania avec une enquête journalistique et... Et vous allez demander au juge de la rue, j'ai dit Nathania parce que ça parle français, vous savez comment ça se passe, en général vous arrivez en Israël, vous utilisez votre nom, on vous répond en français tout de suite. Et là, vous demandez au juge que vous rencontrez pourquoi tu es ici, ici en Israël. Ben, chacun d'entre eux va vous raconter l'histoire de sa vie. Il va vous raconter comment il est venu, dans le comportement. En même temps, il va vous fonder un parti israélien dont il serait le président avec un programme. Des exemples. Un exemple. Quelqu'un vous dira, et c'est une réponse très... Parce que c'est le seul pays démocratique où je peux vivre. Je suis démocrate, je suis socialiste, parce que je suis socialiste. Bon, non, c'est normal. On ne peut pas être socialiste ailleurs. Peut-être qu'on ne peut pas être socialiste ailleurs, c'est un autre problème. Mais en tout cas, c'est évidemment pas pour ça qu'il est venu. Il est venu parce qu'il est juif. Il est venu parce qu'il est venu. Et alors après, il se cherchait pourquoi je suis venu. Il fonde un parti socialiste. Ou bien un autre. Et il lui dira, mais je suis venu parce que je suis religieux. Et bon, non, c'est alors là, mais est-ce qu'on ne peut pas être religieux et répondre en 2000 ans, qu'est-ce qu'on a fait? Et alors, en réalité, c'est pas pour ça. Il est venu parce qu'il est venu. Et comme il faut bien une explication, une justification, eh bien, il est religieux. Bon, il est religieux comme ça, pas comme ça. Autrement, trois parties déjà en une phrase. Ça, c'est la première perspective. Vous pouvez la multiplier par tous les discours d'explication. Mais c'est le phénomène, le fait que 2000 ans après, il y a des juifs qui sont arrivés avec leurs pieds. 2000 ans après. Toutes les explications par lesquelles on se justifie qu'on est venu, à mon sens, elles sont toutes à faire. L'essentiel, c'est qu'on vienne. Là, je vous parle en pédagogue généralisé, bien que je me range dans une synagogue très précise. Quelqu'un vient pour aller à la Shabbat, viens déjà, on verra après. Quelqu'un vient pour aller à Mea Shearim, viens déjà, on verra après. Vous comprenez le problème? Parce que, je crois qu'il faut bien comprendre, c'est second, c'est un autre problème. Tu m'as raconté l'histoire de ta vie, mais c'est pas la question que j'ai demandé. J'ai demandé pourquoi tu es venu, et tu n'as pas encore répondu. Vous avez compris le problème. Mais si vous faites la même enquête, disons à Sarcelles, alors vous allez demander au juge de Sarcelles pourquoi tu es à Sarcelles et pas à Nathania ou à Beersheba. Chacun va vous raconter l'histoire de sa vie, et c'est passionnant, et c'est légitime, et tout ce qu'il dit est cohérent. Mais on ne lui a pas demandé ça. On lui a demandé pourquoi il n'est pas là-bas. Et la réponse est parce que je ne suis pas là-bas, parce que je suis ici. Et puisque je suis ici, j'essaye de m'expliquer pourquoi je suis ici. Qu'est-ce que je donnerais, si vous voulez, comme renforcement de cette analyse, c'est qu'il y a un événement qui s'est produit au bout de 2000 ans. Et nous avons l'orgueil de croire que c'est nous qui avons décidé à l'échelle individuelle. Chacun a pris le wagon d'un train. On n'a pas pris le wagon d'un train que le bon Dieu nous a envoyé 2000 ans après. C'est énorme. Voilà, grosso modo, ce que je voudrais expliquer du point de vue de ces différentes options. Je ne crois pas que ça passe par des convictions d'abord, des connaissances d'abord, ça c'est important mais ça vient après. Ça sort de, je ne sais pas quoi, des reins. Et puis voilà. Et la formule, elle est belle peut-être, mais elle me semble extrêmement intelligente. C'est qu'en Israël, on va avec ses pieds, pas avec sa tête. Et la tête suit après. La tête va avec, mais c'est avec ses pieds qu'on fait. Voilà, je vais vous suivre. Je n'aurais peut-être pas le droit de parler de façon aussi sioniste au cuel, à Rachid, mais je le prends, ce droit-là. Qu'est-ce que tu veux dire?
On a pu peut-être expliquer la différence de au niveau du club, mais au niveau des golims, moi,
je me suis borné pour les golims.
Au niveau de la
restaurant, oui, oui, vas-y.
Je
voulais
dire que Michel dit tout à l'heure, mais vous avez toujours l'interprétation. Peut-être, parce que j'ai toujours senti qu'il y a donc là deux options de la messianité, deux conceptions de la messianité. Est-ce que la messianité, c'est l'œuvre de l'homme, forgée par l'homme? Ou est-ce qu'on attend la messianité à cause, grâce au mérite, grâce à tout ce que nous faisons, grâce à toute le côté méticuleux de la halakha, etc., on attend le machia? Est-ce qu'on attend le machia? Ou est-ce que le machia, c'est l'œuvre de nos mains?
Bon.
C'est ça la marchandise entre Rav Kook et le
c'est une fausse marque. Parce que le Satmar a raison. C'est Dieu qui envoie le Mashiach. Mais le rapport explique qu'il y a une erreur théologique. Comment il fait ça? En faisant dégringoler un personnage mythique du 7e ciel ou à travers le mouvement sioniste? C'est là qu'est la marque. Mais dans tous les cas, les deux sont d'accord, c'est Dieu qui fait ça. Il faut être mystique pour croire que c'est pas Dieu qui fait ça. Non, je suis très sérieux. Quand on demande... Oui.
Michel
D'Alepo, qui est un des élèves du Rav Kook. Et il raconte l'histoire suivante. C'est une blague, ça pourrait être une blague corse d'ailleurs, ça n'a rien d'anti-juif. Je vais dire anti-corse. Raconte voilà que un jour un juif pieux a lu ce qu'il y a dans le Kriyat Shema. Si vous pratiquez mes commandements, je donnerai de l'herbe dans vos champs. Alors il a dit, binan, j'ai pratiqué les commandements, il a pris son tabouret, il s'est assis dans son champ, il a attendu que l'herbe pue. Parce qu'il a écrit, et si vous pratiquez mes commandements, je donnerai de l'herbe dans vos champs. Alors un autre juif pieux qui est passé d'une autre synagogue, il dit, qu'est-ce que tu fais là? C'est la sieste? Il dit, non, je suis pieux, j'attends que l'herbe pousse. Et vous avez compris le problème, j'ai dit, bon, non, c'est là. Et si tu prenais une pioche, vous avez compris, je vous rapporterai une blague israélienne. Alors, dire que c'est l'homme qui fait ça, moi je crois qu'il faut être mystique. Parce que quand on connaît l'histoire juive, se dire que ce qui se passe, c'est que l'homme qui fait ça, c'est qu'on est, on est mystique. Voilà. Eh bien, la blague israélienne, c'est celle-là. Et c'est ma fille qui me l'a raconté, qui l'a entendu d'une des gosses qu'elle a à l'école. Elle dit, voilà, il y avait pendant longtemps, un juif qui allait au Kotel, il mettait tous les jours un petit papier, fais-moi gagner la loterie. Et alors, à la fin, l'ange Gabriel, je suppose, a eu pitié de lui, il a dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça peut te faire faire de gagner la loterie? Dieu lui a répondu, et s'il prenait un billet? Voilà, je crois qu'il y a une erreur théologique chez le Satmar. Et comment Dieu fait ce qu'il fait? Voilà. C'est une erreur théologique, pas du tout une erreur de foi.
Au niveau du processus, l'homme doit faire, l'homme ramène le machin au niveau de l'acte.
Moi, je ne dirais pas ça comme ça. Je ne dirais pas ça comme ça. Il s'agit de percevoir si ce qui se passe dans l'événement providentiel, dans l'événement du retour est providentiel ou pas. Pour un croyant, il est évident que c'est Dieu qui fait ça. Comment? À travers les processus des lois naturelles, parce qu'on n'a pas mérité autrement, on n'a pas mérité plus, et qu'on est arrivé au rendez-vous de la fin du temps et pas au rendez-vous des mérites éventuels. Qu'est-ce que ça m'est goulé, que disent les Kabbalistes? Je ne vais pas rentrer dans l'histoire de dates et de prévisions de dates. Elles existent d'autre part, mais ça c'est le désert. Hein? C'est pas parce qu'il y a écrit cette date et que la date est arrivée que je vais y aller. Hein? Encore une fois, ça concerne les maîtres. Les juifs ne se préoccupent pas du tout de ce qu'il y a écrit dans les dates. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Il s'agit d'un événement. Je vous donne une autre image. Une autre image que j'emprunte aussi au Rav Aviner. Je vous l'ai cité une fois. Et je vous cite ça vraiment. Ce sont des choses tragiques. Enfin, le problème que ça pose, c'est des problèmes tragiques. Parce qu'un juif, c'est un juif, qu'il soit Satmar, qu'il soit Koupien, comme on dit, ou autrement. Il y a un drame plus dans ce problème. Nous sommes une sorte de génération d'orphelins. Et il faut savoir où il faut aller pour être présent au rendez-vous. Et il a envoyé l'image suivante. C'est que pendant 2000 ans, le bon Dieu était fâché avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il était fâché avec nous? Il nous dit dans sa Torah, ma terre c'est ici et pas ailleurs. Et c'est dit de façon tellement massive. Hein? Et on a essayé de revenir avec toutes les stratégies possibles, vrai messianisme, faux messianisme, tout ce que vous voudrez, pas moyen. Pendant 2000 ans, tu peux pas rentrer. Rappelez-vous l'histoire des Juifs et de leur terre jusqu'à il y a 35 ans. 35 ans, pas plus. Et on oublie ce qui s'est passé. Et qu'est-ce que c'est les Marapilim, et qu'est-ce que c'est l'Exodus, et qu'est-ce que c'est le Pisces des Marocains, le bateau qui est tombé à côté du Gibraltar, et qu'est-ce que c'est cette impossibilité, parce qu'il y a les Turcs, parce qu'il y a les Anglais, parce qu'il y a les Perses, parce qu'il y a les... On ne peut pas. Et les Juifs qui arrivent à se faufiler à plat ventre, à travers on ne sait pas quoi, pour pouvoir pleurer à Jérusalem, et ils étaient là, ils pleuraient à Jérusalem. Subitement, on peut. Ah, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire, tout s'est passé comme s'il y avait une muraille. Subitement, la muraille s'est écroulée, on n'a pas vu qu'elle s'est écroulée. Il s'est passé quelque chose en 48, en vendant la char, en 6708, et puis on ne l'a pas vu. Et alors, là, j'ajoute un peu la suite de cette image que je ne m'impute pas parce qu'elle est un peu méchante. Voilà. Vous savez comment on fait tomber une muraille? On prend un bélier et on essaye. Okay? Alors pendant 2000 ans, on essaye. Un bélier le matin, un taureau le soir. Vous voyez à quoi ça donne. Et puis, entre-temps, la muraille est tombée et on a continué. On appelle ça du tourisme. Alors, ou bien on vit cette expérience, et elle est ce qu'elle est, et moi je pense qu'elle est massive, ou bien on la vit pas, et parce qu'on la vit pas, et je suis désolé, c'est pas du tout mon genre de faire la psychanalyse de l'antisémitisme, okay? C'est pas du tout à ce niveau-là que je me place. Dès le début de notre problématique d'identité, nous savons un peuple qui a été jeté à un problème. Va-t'en, si tu reviens c'est toi, si tu reviens c'est pas toi. Comment ça se vit? Il faut étudier 40 ans, ok? Va, reviens. Et si tu reviens, tu reviens. Et bien, si tu reviens pas, Kadish, Al-Israël. Alors, vous comprenez le problème. C'est un problème tragique. Et prenez le 30e chapitre du Deutéronome, okay, dont on a cité un verset avec Maïmonide dans cette étude. Toute l'argumentation ponctuelle. Ah, mais oui, mais c'est pas un pays de la Torah. Enfin, une société de la Torah. Les sionistes anti-religieux ont dénaturé des jeunesses entières. Je pourrais vous ouvrir 1000 dossiers, tout ça c'est vrai. Je pourrais même vous dire des choses qui vous feraient dresser les cheveux sur la tête. Et tout ça c'est vrai. Hein? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Il n'y en a pas d'autre. C'est de ça qu'il s'agit depuis Abraham, Isaac et Jacob, et tous ces textes, et tous les prophètes, et tout, jusqu'à nous. Qui a dit que ça devait être facile? Qui a dit que par un coup de baguette magique, tout allait être parfait? C'est interdit d'être parfait. Vous comprenez, pour reprendre l'image de l'accouchement qui est employée très souvent pour les sorties d'exil, le modèle de la sortie d'Égypte, eh bien, c'est une larve qui naît dans le sang, dans la boue de... Et on attendait le prince charmant. Eh bien, c'est lui, il va grandir. Il n'y en a pas d'autre. Vous comprenez le problème. Et alors, je crois que c'est une question de sensibilité théologique en ce qui concerne les croyants. Problème que font éclater les juifs qui se fichent éperdument de religion, de théologie, et qui n'ont un seul souci, comment je vais redevenir normal? Et c'est eux qui nous montrent le chemin. Est-ce que vous comprenez? Et là, je vais encore vous raconter une petite blague des journalistes, et puis on revient à la fin du verset, parce que, du texte, parce que c'est passionnant, comme vous allez voir. C'est surnant aussi, mais passionnant. Et à la guerre des six jours, un journaliste, c'était d'ailleurs un Scandinave, si je me souviens bien, avait demandé à Moshe Dayan, avec une question un peu sournoise, mais dites-moi, vous vous rappelez la guerre des six jours? C'est pas la guerre de Kippour, c'est pas la guerre de... La guerre des six jours. Il dit, mais vous croyez pas que le bon Dieu vous a un peu aidé? Et Moshe Dayan, spontanément, a répondu, vous avez rien compris, c'est nous qui l'avons un peu aidé. Et c'est Moshe Dayan qui parle. Alors, c'est bien à ça. Alors, je pense qu'on a dit suffisamment de choses important d'un sens et de l'autre à ce sujet, mais je voudrais avancer dans le texte, on reviendra peut-être s'il nous reste du temps à cette problématique. En ce qui concerne les Gdolim, okay, je n'oserais jamais, moi, porter un jugement individuel à ce niveau, c'est pourquoi je vous ai cité le Rahaïm. La phrase du Rahaïm est terrible. Tu connais ce Mahama? Tu le verras, c'est sur Vechi Yamou Rahira. Et c'est un mahamar un peu kabbaliste, mais c'est clair. Alors, donc on a évacué cette hypothèse qu'il avait peur de révéler Mashiach, et malgré la protection de la vertu, il y avait une faute qui risquait de rendre la vertu inefficace. On a écarté ça, okay? C'est clair. Simplement, entre-temps, on a appris un problème, qui est le problème du retard, et de cette angoisse du retard. Oui, je voulais vous signaler, par exemple, après l'Inquisition, avant déjà l'Inquisition, pendant l'Inquisition, après l'Inquisition, les grands maîtres du judaïsme espagnol de Sfaradi de ce temps ont supplié leurs juifs de rentrer en Eretz Israël. Ils n'ont pas voulu. Eux, individuellement, sont allés mourir là-bas, ou en chemin, ou Maïmonide, Judas Lévi, les autres, on vous raconte toutes ces grandes histoires individuelles, tragiques. Comment une communauté dont les maîtres sont Maïmonide, Judas Lévi, ne font pas comme leurs maîtres. Les juifs n'ont pas suivi. Ils sont allés en Hollande, ils sont allés à Salonique, ils ont acheté le monde entier, Eretz Israël, ils l'ont pas acheté, et il a fallu payer grain de sable par grain de sable, cacaël, vous savez ce que c'est. Eh bien, on voit bien qu'il y a cette ligne d'inquiétude des rabbins qui voient que leur peuple ne suivra pas. dès le début, c'est l'angoisse de là, c'est l'angoisse de là-bas, et on va voir encore de qui. C'est clair jusque-là. Et je crois qu'un peuple comme tel n'est pas responsable au niveau responsabilité. S'il y a, et je ne sais pas s'il y a des responsables, s'il y a des responsables, c'est les maîtres. Enfin, ce que le Rav Rahim appelle les grands d'Israël. Et il les appelle les grands d'Israël. Vous voulez que je vous lise la phrase pour eux. En tout cas, la référence, je vous l'ai donnée. Oui, alors ça doit être là. Alors, je vais lire quelques phrases seulement en hébreu, et ensuite je vous traduirai la dernière. Ve'agilatiye, ve'ahir libot bnei adam, ve'yamer lahem, atov lachem ki teshvu chutz, golim me'al shulchan abichem, u'may erav lachem ha'chayim ba'olam zulat ha'chevra ha'elyona asher yitem snuchim saviv leshulchan abichem, u'elokei olam baruch hu la'ad. וימיס בעיניו תאוות הנדמים ויעירם בחשק הרוחני גם נרגש לבעל נפש כל חי עד אשר יטיבו מעשיהם ובזה יגאל השם ממקרו ועל זה עתידי ניתן את הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל ומהם יבקש השם עלבון הבאי כעלו תגיד אני רואה שאתה לי ג'יסט אין נבחר עדו Je vous l'ai donné, Lévitique 25-25, le Rahim. Et pour cela, Atidin et Tadim sont destinés à passer en jugement, à rendre compte. Kol Adonéare, les maîtres de la terre, Gdolé Israël, les grands d'Israël, Mehem Bakesh Hashem, et Dieu réclamera d'eux, Elbon, le veuvage, Abayit et Aloum de la maison abandonnée. C'est fort que ça. C'est le Rahim, c'est pas un sioniste de la journée. Alors en tout cas, je referme cette tragique citation et on avance. On va nous proposer maintenant un tout autre système d'hypothèses. Rechen amar Rabbi Yochanan. Et de même avait dit Rabbi Yochanan, Yeti velahmine, qu'il vienne et que je ne le vois pas. Amar le Rish Lakish. Rish Lakish lui a demandé. Rish Lakish était le Talmid Chaver de Rabbi Yochanan. Rish Lakish lui a demandé, Maïtama, pour quelle raison tu dis toi maintenant, Rabbi Yochanan, qu'il vienne et que je ne le vois pas? Et l'imam Mishum dirti, peut-être que c'est parce qu'il est écrit, et là je vous lis un verset des prophètes, qu'on va d'abord traduire, que je vais expliquer un peu, et c'est une hypothèse qui va être évacuée. Mais, méthodologiquement, il est important que cette hypothèse soit citée et située. Peut-être, Mishum dirti, parce qu'il est écrit, que ça arrivera comme Kaasher Yanus Ish Mipenehari, quand un homme s'enfuit devant un lion, le lion, Pegaro Ado, et c'est l'ours qui le rencontre. Voilà, il est sauvé du lion, et voilà que l'ours s'amène. Ou Bahabait, et il rentre dans sa maison, mais Samach Yado Alakir, et il pose sa main sur le mur, ou Shachor Anachash, c'est le serpent qui vient le mort. Alors, Rish Lakish dit à Rabbi Yochanan, peut-être que tu penses à ce verset-là. Et quel que soit le symbolisme d'exégèse, qu'il s'agit de danger symboliquement totémisé en lion, ours et serpent, c'est très important pour la symbolique, mais ce n'est pas important pour le thème. Je ne dis pas que ce n'est pas important en soi, mais pour le thème, ce n'est pas important. Rish Lakish a une exégèse de ce verset pour lui montrer que c'est dérisoire que lui, Rabbi Yochanan, a peur de ce lion, de cet ours et de ce serpent. Parce que voilà, dit-il, comment ça se passe dans notre monde. Bo vereka, viens que je te montre, dougmato barolamazé, un exemple de ça, de ces dangers terribles, barolamazé dans notre monde. Bisman chez Adam yotse la sade, au moment où un homme va dans le champ, ou pagarbo santar. Santar, c'est un mot latin qui est rentré dans l'hébreu du Gemara et qui signifie l'arpenteur. Regardez bien les commentateurs. Celui qui arpente, le cadastre, c'est pas, on appelle ça le tabou, je ne sais pas pourquoi en Israël, ça vient d'un mot turc, je pense. Les limites du champ, les frontières. Jusque-là, le champ t'appartient, à partir de là, c'est à l'autre. Le santar, ce mot, c'est le mot de sénateur. Okay? Mais dans l'hébreu rabbinique, santar, ça veut dire l'arpenteur. Vous savez d'ailleurs chaque fois qu'il y a une commission de sénateurs qui arrive en Eretz Israël, c'est pour nous dire où passent les frontières. Et nous allons avoir une identification. Et le lion, l'ours, le serpent, et bien, tu vas voir comment ça se passe, quand ça se passe concrètement. Premièrement, la commission Rogers. Vous savez ce que c'est, hein? La mission Schultz, jusque la statue, à partir de là, c'est la Jordanie, enfin, le Santa, l'arpenteur. Okay? De quel problème tu as peur? Des problèmes d'arpentage? Eh bien, on les vit, les problèmes d'arpentage. Okay? Ça, c'est le lion. Sans doute, c'est moi qui interprète, je m'envole, c'est un problème dont on a hérité du lion britannique. Okay? Quand les Britanniques sont partis, ils nous ont laissé un problème de sénateurs et de frontières. Dis, voilà ton lion, qu'est-ce que c'est pas plus? On continue. Ou pas. Domé, Kémi, c'est pas Garbo, Harry. Ça ressemble à celui qui avait rencontré un lion. Nichnas Nahir, pas Garbo, Gabay. Il est rentré dans la ville, il a rencontré le collecteur d'impôts. Gabay, c'est le trésorier. Okay? Deuxième problème, Masarnasa, Azma. C'est vrai qu'il y a un problème de Gabay. Il y a un problème de d'impôts, okay? tout simplement. Et c'est vrai que c'est notre deuxième problème. Okay? Le premier, c'est un problème d'arpentage, les non-frontières. Okay? Le deuxième, c'est Massachnassam, l'idée des jours, vous savez que ça qu'on vit du jour au lendemain. Et ça, c'est Domé que Miche Pegao Do. Ça ressemble à celui qui a rencontré l'ours. Dites-moi, d'où il savait tout ça, Richatis? Bon, simplement, il fait un diagnostic de sagesse élémentaire. On va revenir, on aura une société, à cause du lion, on va avoir pas de frontières. Okay? Et puis à cause de l'ours, on a un problème de budget. C'est clair. Et quand on avait encore la lire avant le shekel, j'avais l'habitude de dire une blague empruntée à Musset, que le budget d'Israël, c'est une histoire de feu, tout le monde le sait. Poète, prends ta lyre et me donne un budget. Oui, et tous nos ministres des finances, c'est des surréalistes. Et d'où ça vient? De ce qu'on a en face de nous, un arsenal d'armes soviétiques. Bon, je ne sais pas si ça s'appelle l'autre, peut-être. Pourquoi pas d'ailleurs. En tout cas, c'est de ça qu'il s'agit. Si on fait l'analyse, si vous voulez, du problème du Massarnassa, vous savez que c'est le Massarnassa, les impôts, okay, en Israël, eh bien, on voit qu'on est confronté à une situation d'une société surréaliste. L'idée qu'un budget israélien soit cohérent, c'est du surréalisme. En côté, il dit, voilà ton deuxième problème. Premièrement, les sénateurs, et deuxièmement, les collecteurs d'impôts. Ça, c'est Domé qui mis chez Pegarodo. Ça ressemble à celui qui a rencontré un ours. Nichnas Leveto, il rentre dans sa maison, ou Matsabanav, ou Motav, Mutalim Baraha. Et il trouve ses fils et ses filles affamé. Ça, c'est le prix de la margarine, l'inflation. Vous avez entendu parler du serpent de l'inflation? Bon, ça, c'est celui qui a rencontré le serpent. Et celui-là, c'est pas celui qui donne les armes aux ennemis. Ça, c'est notre allié, notre ami, l'Amérique. Si vous payez les services qu'on leur rend, la margarine coûterait moins cher en Israël. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors voilà, il dit donc c'est tout, donc c'est pas à ça que tu penses. Vous avez compris? Je répète, on a une histoire d'arpentage, une histoire d'impôts et une histoire d'inflation. Et comme nous sommes des spécialistes de tout ça, c'est tellement énorme qu'on ne le voit plus. Mais Rich Lakish l'avait vu. Alors donc, on arrive à la dernière hypothèse. Vous allez me dire d'ailleurs quelle est l'idée, comment j'organise ça. Ah ben voilà. Non, mais non, on a juste un seul verset à voir. Et on dit, non, le vrai problème, c'est pas tout ça. Il y a encore un problème beaucoup plus inquiétant que tout ça. C'est quoi? Ni Chevre Mashiach, ni les affres du retour de retard ou pas retard, ni les difficultés du budget israélien. C'est quoi? Je vais vous le dire à l'avance. C'est le problème palestinien, comme on dit en général, et vous allez le lire dans le texte. Il dit non. Ella. Yet, Ella. Mais, Mishum Dirti. C'est parce qu'il est écrit un autre verset des prophètes. Sha'aluna ou interrogez et voyez. Im yolet zachar. Si un mâle zachar enfante. Évidemment, non. On n'a jamais vu ça, qu'un mâle enfante. Le verset est difficile, mais je continue d'abord à le lire. Après, on verra l'interprétation. Madua raiti kol gever. Alors pourquoi dit Dieu dans ce verset? J'ai vu tout gever, tout mal par excellence. Gever, genre gibor, mais gever. Hein? Geveret, gever. Vous voyez que c'est gever. Alors pourquoi j'ai vu tout gever? Yadav al halatzav, ses mains sur les hanches, kayoleda, comme une femme en couche. Venez perchou kol panim ne irakon. Et toute face est devenue verte de jaunisse, irakon, de peur. Voilà le verset. Dis-moi, c'est ce verset que tu penses. Est-ce qu'un mâle enfante, alors pourquoi j'ai vu tous les hommes les mains sur les hanches, mon Dieu, de quoi on accouche, okay, et toutes les faces vertes d'angoisse. Alors, explication de la Gemara. Maï raïti kol geber, qu'est-ce que ça veut dire, j'ai vu tout geber, tout vaillant, amaraba baritzrak, amaraba. On cite un enseignement de Rav sur ce verset. Mi shekol gvura shelo, celui à qui appartient toute vaillance, Dieu lui-même. Ça veut dire qu'on a là un problème pour qui Dieu n'a pas de solution, premièrement. Il y a un problème d'accouchement, mais pour qui Dieu n'a pas de solution. Ou maï venir pechou kol panim le irakon. Et qu'est-ce que ça veut dire que toute face est devenue verte de peur, de jaunisse? Ama Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit, ce même Rabbi Yochanan, c'est pamalia shel marla ou pamalia shel mata. Et ça veut dire toute face. Il y a les faces d'en haut et les faces d'en bas. Et c'est pamalia shel marla. Là, vous retrouvez un mot latin. Famalia, enfin, famille, hein, la famille d'en haut. Très rapidement, ce sont des thèmes que vous étudiez, je suppose, d'autre part. Selon la conception juive de l'historiosophie, chaque nation est représentée, je vais parler en langage un peu symbolique, mais pour aller vite. Chaque nation, dans son génie propre, est représentée par son génie propre, par un prince céleste au tribunal d'en haut. Ensemble, ils font la famille d'en haut. Est-ce que c'est suffisamment clair? C'est ce qu'on appelle les sarim, les princes célestes, qui sont les providences partielles de l'histoire nationale de chaque société. C'est la famille d'en haut. Et la famille d'en bas, c'est le rassemblement de l'humanité lorsqu'ils se rassemblent. Et là, c'est une parenthèse importante pour éclairer le moment du problème où nous sommes, mais je vais en profiter pour analyser une expression. Nous disons du Dieu unique, il est « Melech Malche HaMelachim », le roi des rois des rois. Meler, Malché, Amener. Qui sont les rois? Le niveau inférieur, c'est les rois des nations, sur terre. Bon. Mais ils sont divisés depuis la grande dispersion de la tour de Babel, il n'y a pas la famille d'en bas. Postulat. Okay. Seulement, ces rois-là ont des rois célestes, c'est les rois du milieu. Et il y a le roi des rois des rois. Donc, lui, les anges des nations, ils ont les génies tutélaires des nations, peu importe le langage. Et puis les rois. Bon. Alors quand on nous a dit la famille d'en haut, la famille d'en bas, vous voyez les trois niveaux, Dieu lui-même, pas de solution. La famille d'en haut, pas de solution. La famille d'en bas, pas de solution. Or cette famille d'en bas ne s'est jamais constituée en instance politique supranationale qu'au moment, et c'est arrivé trois fois dans l'histoire, où Israël devait mettre fin à l'exil. Et je reprends le modèle à l'origine. Vous vous rappelez que les Hébreux ne pouvaient quitter l'Égypte qu'avec l'autorisation du Pharaon. Ce n'est que quand le pharaon donne le feu vert que les Hébreux peuvent partir. Pourquoi? Parce que, et ce n'est pas le contenu du problème, étant donné la cohérence du monothéisme, s'il y a un contrat de travail avec l'universel humain, pour mettre fin à ce contrat, il faut l'accord du patron. Peu importe ce qu'il y a dedans. Deuxièmement, à la sortie du deuxième exil, c'est Cyrus qui était l'autorité politique supranationale de l'époque. Et relisez bien les derniers versets de la Bible. Tant que Cyrus n'a pas donné le feu vert, déclaration Cyrus, si je veux dire, c'est le dernier texte de la Bible. On ne peut pas quitter la Babylonie. Et de notre temps, comme par hasard, ça s'appelle la déclaration Balfour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que cette déclaration soit dite, il faut qu'enfin une instance internationale, et peu importe comment elle fonctionne, de prétention supranationale, dise OK. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas recevoir ce OK de telle ou telle ou telle nation, l'exil est universel. Or, pendant 2000 ans, il n'y avait pas cette instance de la famille d'en bas. Et voilà qu'elle se constitue, l'un des lumeaux de l'histoire sous la providence. La société des nations, c'était ça en 17. Hevera Ami, mon ami. Umota Olam, l'ONU, ça c'est après. Hein? Mais d'abord, et puis 22-23, Sanremo. Sanremo, où c'est la SDN qui légitime, comment dire, hein, habilite la déclaration de Balfour, et les événements se déclenchent. Tout ça avant Hitler, entre 17 et 33. Et Qu'est-ce qu'a fait l'ASDN dans sa glorieuse histoire? Rien, sauf ça. Qu'est-ce qu'a fait? Comment ça a fonctionné, cette instance supranationale? Tout se passe comme si elle est arrivée sur la scène de l'histoire que pour s'occuper de ce problème. Elle a fait une chose autre qui n'a aucune importance. Et regardez. Pardon? Non, j'arrive. Et puis voilà que l'État juif, à proprement parler, est corollaire de l'existence de l'ONU. Or, l'ONU a tous les dossiers de la planète à résoudre. Mais finalement, elle ne s'occupe que d'un dossier. Comme on dit en français, le problème du Moyen-Orient. Bon, qu'est-ce qui se passe à Jérusalem? Voilà, ils sont fichés éperdument. Remarquez ça. Et il y a une indication, mais ce que je veux mettre en évidence, c'est, par rapport à notre texte, le fait qu'il faut une famille d'en bas à ce moment-là. Et alors voilà donc, il y a ces trois niveaux, mais qu'est-ce qu'a dit le verset des riches latins? Et il y aura un problème insoluble pour lequel personne n'a de solution. Alors maintenant, on va avancer un petit peu dans l'analyse. J'ai pas encore du tout identifié de quoi il pourrait s'agir dans ce problème. Je vous ai lu les exégèses de Richard Kent.
Je voudrais demander que les personnes pour interpréter la famille d'en bas connaissant la population, lorsque les sources nous connaissent Rachid et le Maharaj dans le chapitre 36 d'Israël, la famille d'en bas
Israël, Rachid, exactement. Je sais, oui. D'accord. Non, c'est moi qui propose cette lecture. D'accord, parce que je pourrais aussi vous donner l'explication du Rachid du Maharal d'autre part. Non, j'arrive. Bon, est-ce que vous avez ce Rachid sous les yeux? Regardez en bas. Malachim ve Israël afilou agerim. Ah, afilou agerim, ça fait. Mais ça, je pourrais vous la lire tout à l'heure. Pour le moment, lisons cette lecture que je vous propose. Et, en tout cas, on ne peut pas nier qu'effectivement, l'événement que je décris, c'est-à-dire le fait, au niveau sociopolitique, le fait qu'apparaisse une instance supranationale au moment des fins d'exil, soit un fait d'histoire. Et bien entendu, mais on arrivera à la deuxième lecture par la suite, et il faut pas seulement l'accord de l'ONU, comme j'ai dit aujourd'hui, il faut l'accord d'Israël, c'est-à-dire du peuple d'Israël. Ça, c'est la deuxième lecture. Et alors, j'arrive au problème lui-même. Alors, je relis. « Pamalia shel marla ou pamalia shel mata » Quand? De quoi s'agit-il? « Peshara she'amar akadosh baruch » Au moment où Dieu dit, aura à dire, dans le récit, Halalou ma'ase yadai, ve halalou ma'ase yadai, littéralement ça veut dire halalou, cela, ma'ase yadai, sont l'œuvre de mes mains. Et cela, sont l'œuvre de mes mains, suivez bien le balancement, he'ar et avedelou, nipene elou. Comment puis-je perdre cela à cause de cela? C'est-à-dire que Dieu va être devant une impasse qui se formule ainsi et pour lequel. Lui n'a pas de solution, comment puis-je faire cela sont l'œuvre de mes mains, cela sont l'œuvre de mes mains, alors à plus forte raison, ni les anges, et ni la famille d'en bas, que ce soit l'ONU ou l'Israël, les deux, comme on voit après la question. Et alors, de quoi s'agit-il dans ce problème insoluble, pour qui personne n'a de solution? Amar Rapapa, Rapapa enseigne, là vous avez la deuxième page, Aïmoud et Amrinche, c'est cela à quoi fait allusion le proverbe, le dicton populaire, suivez bien, et on est arrivé à la dernière phrase, Rahet Venafal Torah, le bœuf a couru et est tombé, Veazel Veshadele Soussia, et le sujet c'est le propriétaire du champ, est allé placer un cheval béourié dans l'étable du bœuf. Et ça s'arrête là, on passe à la suite. En passant à autre chose, mais je vais quand même lire juste la ligne qui suit. C'est un autre sujet. Amar Rab Gidel. Amar Rab, on a cité au nom de Rab, Atidim Israël Beachle Shnei Mashiach. Littéralement, ça veut dire Israël est destiné dans l'avenir à manger, Achle, gaspiller, de Mashiach. D'après le contexte, on voit laisser passer l'occasion de deux moments où ça aurait pu être le temps messianique. Vous voyez la cohérence d'ailleurs de l'organisation des Marmaris. Je reviens à ce dicton populaire. Nous allons le lire mot par mot dans le commentaire de Rashi. Vous l'avez sur la page. Alors prenez Rashi. En haut de la page. Hein? Kesheratz Hashor. Torah, c'est l'araméen pour Shor. Kesheratz Hashor. Lorsque le bœuf a couru, Venafal est tombé, Mahamidim Sus Binkomo. On met un cheval à sa place pour faire son travail. Hein? Travailler le cheval. Beyboussou, dans son étable, Machelorayarotse la asot kodem mapalato shecho. C'est que le propriétaire ne voulait pas faire avant que le bœuf ne soit tombé. Chehaya Haviv Alav Shoro Beyoter. Parce que ce bœuf lui était très précieux. Donc, pas question qu'a priori, dans ce champ, il y a un cheval. Non, il faut qu'il y ait un bœuf. Seulement, le bœuf est tombé. On ne va pas laisser le champ inculte, disons. Alors, on a mis un cheval à la place. Vous devinez la suite avec Rashi. Ou que j'ai mis trappé un chose. Et lorsque le bœuf sera guéri, Hayom Olemaha. Aujourd'hui ou demain. Regardez le. L'humour de Rashi. Un jour, il sera guéri, ce bœuf. Aujourd'hui ou demain, ça n'a pas d'importance. L'événement grave, c'est quand il sera guéri. Les Mahamim n'ont pas la tour de sa chute. Et ici, il y a, je pense, cette harmonie de la chute dans le sens théologique, probablement. Mais le pshat de Rashi, c'est qu'il est tombé, il s'est cassé la jambe. M'a pas la tour. Cacher l'eau, ça lui sera difficile au propriétaire de l'étable. Léotsi, Sousso, Mipene, Hachor. De sortir son cheval à cause du bœuf qui revient. Léaha, chez Aïmi Dosham, après qu'il l'a mis là-bas. Jusque-là, l'explication du dicton. Et pourquoi on s'est servi du dicton dans notre problème, c'est la suite de Rashi. Car, à Kadosh Baruch, de même, Dieu, ou lui, à Kadosh Baruch, Kivan, chez Aram, Aparatam, Aparatam, chez Israël, lorsqu'il a vu la chute d'Israël, Noten Gdulato, il donne sa grandeur, la grandeur d'Israël, Léaoudé Kochavim, aux idolâtres, dans l'économie de l'exégèse, en les mettant à la place d'Israël, dans l'état, le champ. Urche Hozrim Israël Bitshuva, et lorsque Israël revient en repentir, et reprenez le chapitre 30, une petite parenthèse pour pas qu'il y ait de contestation, le chapitre 30 du Deutéronome, c'est que le retour qui s'appelle repentir est entremêlé dans...